on avait parlé hier, de diriger, orienter notre vision, notre optique dans la vie, non pas de façon extérieure, mais plutôt vers l'intérieur de notre personnalité. C'est-à-dire, plutôt que d'être constamment affairé du matin au soir avec la politique et tout ce qui se passe dans le monde entier, de s'intéresser à tous les médias, eh bien, plutôt que cela, eh bien, c'est important de s'habituer aussi, au moins autant, sinon plus, à sa propre personnalité, c'est-à-dire essayer de situer son identité, à quel niveau spirituel et moral on se trouve, pour essayer de s'améliorer. On l'a expliqué qu'il s'agit aussi de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous, c'est un message pour nous. Si tu vas une avéra, eh bien, plutôt que d'aller mépriser, il faut bien comprendre que c'est un message pour toi, comment prendre tes précautions pour éviter l'avéra. Si tu vois une mitzvah, eh bien toi aussi, essaye de suivre les traces de celui qui a fait la mitzvah, essaye de faire pareil autant que possible, évidemment en respectant tes limites, tes capacités, de façon maximale possible. C'est-à-dire il faut s'exiger le maximum, mais il ne faut pas aussi dépasser ses capacités. Top. Alors on va poursuivre aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, il y a encore un élément important dans ce domaine-là. C'est que lorsqu'on a dit qu'il faut diriger notre travail personnel vers notre propre personnalité. Alors de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de soi-même, de moi, c'est qui, c'est quoi le moi de l'être humain vers lequel on va diriger notre travail spirituel et moral? Alors, on sait bien que nous sommes constitués d'un corps et d'une âme. Bon, l'âme, la neshama, on l'a dit à plusieurs parties, nefesh, loar neshama, bon, et le corps. Alors il faut prendre garde de ne pas considérer que le corps et la neshama sont comme totalement séparés, et donc automatiquement, par conséquent, paradoxal, que la neshama, notre âme, elle est attirée par tout ce qui est spirituel, tout ce qui est valeur morale et tout ce qui est intellectuel, alors que notre corps lui est attiré par tout ce qui est matériel, tout ce qui est instinct et passion et plaisir de la vie. Bien que on a l'impression que c'est comme cela, et donc on estime a priori que le corps et l'âme sont en paradoxe, et que le corps vient nous tirailler vers tout ce qui est plaisir de la vie, alors que l'âme vient nous influencer, nous pousser de réaliser plutôt ce qui est spirituel. Alors, pourquoi c'est un tort? Parce que Hachem ne va pas créer, a priori, un homme avec tant de contradictions, tant de paradoxes. Au contraire, un être humain peut absolument trouver cette harmonie entre le corps et l'âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relie notre corps à notre âme. Ce quelque chose, ça s'appelle le da'at. En termes hébraïques, c'est le da'at. Le da'at, on va traduire par l'esprit, la raison, la logique qui vient de la réflexion et méditation. Bon, je préfère utiliser le terme de da'at qui est plus significatif. On va essayer d'expliquer c'est quoi le da'at. Le da'at est en train de... C'est lui qui relie notre corps et notre âme. On va expliquer cette notion de da'at, c'est-à-dire que c'est lui, ce da'at, qui va nous aider à éviter le paradoxe entre le corps et l'âme et nous amener à l'harmonie entre notre corps et notre âme. C'est-à-dire que, surtout dans la vie qu'on mène de nos jours, alors bon, on est tous intéressés, tous motivés par le respect, l'accomplissement des mitzvot. C'est spirituel. On est tous intéressés à préserver des valeurs morales et humaines, se conduire de la façon la plus idéale possible. Bon. Mais cependant, de temps en temps, on sent qu'on est tiraillé, attiré par les forces instinctives, les forces de notre corps. Et des fois on arrive à se maîtriser, des fois on n'arrive pas. Bon. Et bien souvent, on n'arrive pas à trouver, à gérer cela comme il faut. Gérer, n'est-ce pas, le fait que notre âme habite notre corps de façon idéale et parfaite. Entre parenthèses, cette question a préoccupé beaucoup de grands philosophes dans toute l'humanité. C'est-à-dire que des grands philosophes, surtout les philosophes grecs, étaient intéressés à cela, étaient même préoccupés par ce fait qu'il y a a priori un paradoxe chez l'être humain. L'être humain, de par ses facultés spirituelles et morales, intellectuelles, il est même comparé à un ange. Alors que de son corps, de son physique, il est comparé à un animal. Alors, qu'est-ce que l'homme il est ? Un animal ou un ange ? C'est pas pour rien que Darwin a montré, démontré, selon sa chita, que l'homme descend du singe. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de traits de caractère chez l'être humain qui ressemblent, n'est-ce pas, à l'animal. D'ailleurs, la Gemara dit que dans plusieurs domaines, l'homme ressemble à l'ange et l'homme ressemble à l'animal. Mais en fait, c'est ça la grandeur de l'être humain lorsqu'il suit les conseils de la Torah, c'est qu'il a la possibilité de créer cette harmonie entre son corps et son âme, et donc automatiquement de transformer les forces, les facultés de son corps, de son physique, non pas en quelque chose de matériel et bas et mesquin, mais au contraire de quelque chose qui est rattaché constamment à ce qui est spirituel, ce qu'on a expliqué aux attachés.
Okay. Au niveau de l'illusion ?
Oui, vas-y.
Ça veut dire, d'après ce qu'on dit là, ça voudrait dire qu'il ne peut pas y avoir une avéra qui est intellectuelle. Au niveau de la nature.
Une avéra qui est intellectuelle.
Ça veut dire un yétera au niveau de un yétera intellectuel. Par exemple, on voit que ça existe.
Oui, ça existe. Là, ça existe.
Ce qu'on dit, on voit que c'est que le corps qui peut faire l'avéra.
Rabbi Yisrael Salanter disait qu'il y a aussi un yétera qui est spirituel. Il pose la question, il dit que si on parle, n'est-ce pas, du corps qui est attiré par les instincts, les passions, les plaisirs, donc le yétera, il est toujours du niveau du domaine du matériel. Mais parler de yétera spirituel, ça n'existerait pas. Alors, bon, je réponds qu'en effet, il y a aussi un yétera qui est spirituel. C'est un autre domaine dans d'autres dimensions. Tout d'abord, lorsqu'on ne parle pas du corps, alors c'est pas uniquement le corps. On a dit que c'est qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama. La partie la plus basse de l'âme est appelée Nefesh. Dans cette Nefesh, il y a aussi deux parties qui s'appellent Nefesh Abamit et Nefesh Asirlit, c'est-à-dire l'âme bestiale et l'âme intellectuelle. Maintenant, c'est aussi écrit, il y a aussi, n'est-ce pas, dans Nefesh, il y a Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Ruach, pas aussi dans Ruach, il y a Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, etc. C'est-à-dire que...
Il y a des mauvaises parties.
Voilà, c'est-à-dire que même au niveau de l'âme, n'est-ce pas, il y a des parties qui sont mauvaises. Par exemple, lorsqu'on parle des défauts et des vices d'un être humain. Et bien, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui aime les honneurs, ce n'est pas du domaine du corps. C'est du domaine, n'est-ce pas, de l'âme, mais la partie basse de l'âme, en effet. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une partie basse de l'âme qui, elle, est liée intimement au corps, et les averot sont faits avec ces deux parties-là. Lorsqu'on démarre du corps jusqu'au summum de la Neshama, il y a au moins 125 niveaux différents qui sont énumérés dans certains livres de mystiques. Mais bon, on n'est pas dans ces notions-là. Alors, on doit savoir c'est qu'il y a aussi, en effet, un Yetzara qui est spirituel. Bah, des fois, alors bon, le Yetzara, il sait qu'il ne peut pas nous faire une avéra, eh bien, il vient nous inciter à faire une mitzvah, entre guillemets, alors qu'en fait, c'est une avéra. Alors, je vous donne un exemple, une histoire bien connue, que Rabbi Yisrael Salanter, un beau jour de Kippour, alors on l'attend le soir pour connidrer à la synagogue, il n'arrive pas. Bon, il tarde, eh bien, il faut commencer, c'est bientôt le coucher du soleil, on commence. Et il n'arrive pas. Et ensuite, on va faire vite aussi, il n'arrive pas. Toute la soirée, il n'est pas venu. Sur le chemin du retour, ils l'ont aperçu. Eh bien, il était entré dans un appartement. Il était en train de bercer un bébé qui est en train de pleurer. Et il leur a dit, eh bien, en effet, sachez que la mère de cet enfant, qu'il a abandonné pour aller écouter Kol Nidre, le soir de Kippour, eh bien, elle n'a pas fait une mitzvah, elle a fait une avéra. Parce qu'il est vrai que Yom Kippour, c'est très important, qu'on l'hydrée, c'est très important, mais il faut savoir respecter les priorités. Pour une mère qui a un enfant en bas âge, Eh bien, la plus grande mitzvah, plus qu'écouter Kol Nidre, c'est de rester à côté de son enfant et de s'occuper de lui. Et ce n'est pas un a posteriori, ce n'est pas, n'est-ce pas, je veux dire, une résignation, mais c'est au contraire, pour elle, c'est une mitzvah plus importante. Alors là aussi, le Yetzara, il vient t'inciter à faire une mitzvah, entre guillemets, mais comme tu es en train de délaisser une autre mitzvah plus importante, eh bien, c'est une avéra. Ça s'appelle un Yetzara Kiruchani, qui est du domaine du spirituel. C'est un exemple. Top, on en parle encore, mais attaché. Top. Alors, on revient à notre sujet. Ce qui relie le corps et l'âme, ça s'appelle le da'at. Asla, dit la Gemara dans Brachot Lamed Gimel. La Gemara nous dit que Marbi Lazar, Kol Adam Shiesh Bo De'a, Kelu Nivna, Bet Amigdash, Beyamav. Celui qui a du da'at, eh bien, c'est comme si on considère comme si le Beth Amikdash a été construit dans sa vie. Il a contribué à la construction du Beth Amikdash. Pourquoi ? Explique le Maharsha. Parce que le Beth Amikdash, eh bien, c'était la maison, le palais royal, qui reliait le ciel et la terre. C'est-à-dire, dans le monde entier, la terre la plus sanctifiée, c'est Israël, ensuite c'est Jérusalem, Harabait, etc., Kodesh, Kodesh HaKodashim, le Beth Amikdash. Donc l'endroit le plus sanctifié sur la terre, c'était le Beth Amikdash. Et c'est là où vraiment résidait la présence divine. C'est-à-dire que la façon, l'endroit par lequel Hachem était en contact avec nous, eh bien c'était par le Beth Amikdash, par le Kodesh HaKodashim.
Alors quel est le premier ? C'est Yerushalayim ou le Beth Amikdash ?
Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus sanctifié. Mais de bas en haut, d'abord c'est Eretz Israël. Ensuite Jérusalem, ensuite Arabaït, etc. Nazareth, jusqu'à Kodesh HaKodashim. Donc, et ça n'est-ce pas celui, Mishesh Bo Da'at, c'est le Da'at qui te permet de relier ciel et terre. Pourquoi ? Parce que le Da'at, il est en train de relier des notions qui paraissent comme paradoxales. Comme la terre et le ciel t'apparaissent en paradoxe. C'est-à-dire, tu as l'impression, n'est-ce pas, qu'il n'y a aucun rapport entre le ciel et la terre. Comme des philosophes qui disaient que Hachem a créé le monde, mais il lui a donné un coup de pied. Ou alors, encore pire, Hachem n'a pas créé le monde. Alors qu'au contraire, on dit non, Hachem a créé le monde, il est en contact permanent avec notre monde, il le surveille, il le protège, et tout ce qui se passe, eh bien, c'est décidé, dirigé par la main d'Hachem. Eh bien, là, tu as relié le ciel et la terre. C'est-à-dire que, donc, et ça, c'est ton da'at qui peut t'amener à cette réflexion, à cette prise de conscience. Par aussi, ton da'at, il peut relier le ciel et la terre, qui sont ton esprit et ton corps, ton âme et ton corps. C'est le da'at qui va relier le corps et l'âme, qui n'est pas de paradoxe entre eux deux. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un cadeau du ciel, le da'at.
Le da'at, bien sûr, c'est un cadeau du ciel. Bien sûr. Hachem nous a donné le dat. Ata, chone, la dame dat.
Quel est notre mérite ?
Notre mérite, c'est de l'utiliser, de l'exploiter, de ne pas le laisser endormi ou anesthésié. Parce que beaucoup de gens n'utilisent pas le dat. Ça, sera expliqué. Le dat, ce n'est pas uniquement le fait de savoir, de comprendre. C'est la prise de conscience. C'est quoi le dat ? C'est quoi le dat ? Le dat, c'est lorsque tu vas exploiter, utiliser les forces, les facultés mentales que Hachem t'a données. Lorsque, par exemple, tu réagis de façon spontanée, de façon précipitée, sans réfléchir, sans méditer auparavant, eh bien, il y a très peu de chances que tu aies utilisé ton da'at. Ton da'at, il était anesthésié, endormi. Tu as utilisé, n'est-ce pas, ton savoir, ta conscience. Prenons un exemple. Un animal. Un animal, eh bien, il a aussi une certaine intelligence, entre guillemets. Mais cette intelligence, elle provient de son instinct. Dès qu'il voit un danger, il réagit. Il se sauve, ou alors il se met à se battre. Dès qu'il a faim, il va chercher une proie pour satisfaire sa faim. Mais cela ne se passe pas du da'at. C'est un instinct, et il a une certaine compréhension de ce qui se passe dans le monde, eh bien, qui va l'amener à faire ci, ne pas faire cela. Eh bien, un être humain qui réagit de façon trop spontanée, sans jamais réfléchir, sans jamais méditer, eh bien, il se conduit comme un animal. C'est-à-dire qu'il a en effet plus d'intelligence, plus de savoir qu'un animal, mais il réagit comme l'animal parce qu'il réagit de façon instinctive. Si quelqu'un l'a énervé, eh bien, sans réfléchir, il lui donne une gifle. Si quelqu'un l'a vexé, eh bien, il se met à le maudire, à l'insulter, sans réfléchir auparavant. C'est une réaction qui est instinctive. Instinctive, ça provient du corps, ça provient de nefesh, de la partie la plus basse de notre âme. Alors que le da'at, il était anesthésié, endormi, il était de côté. Alors comment utiliser, exploiter les forces, les facultés mentales que Hachem nous a données? Eh bien, là, ça dépend de toi, de ta décision, pas de vouloir en effet utiliser toutes ces forces, ces facultés intellectuelles et mentales que Hachem t'a données. Alors par exemple, si je me trouve dans une situation X, une situation donnée, surtout ce qui est très courant et ce qui est très problématique, une situation qui ne m'arrange pas, une situation dans laquelle je me sens très dérangé, très perturbé. Par exemple, eh bien quelqu'un m'a insulté. Par exemple, j'ai demandé qu'on fasse un travail et le travail n'a pas été réalisé. Par exemple, j'ai raté le bus, j'ai raté le train, j'ai raté l'avion et je suis coincé pendant quelques heures dans un endroit où je suis mal à l'aise. Bon, n'importe quelle situation dans laquelle on est dérangé. Alors, comment réagir? Et bien là aussi, n'est-ce pas, ta réaction, et bien c'est ce qui va définir est-ce que tu es en train de faire agir ton da'at ou pas. Si tu réagis de façon spontanée, de façon instantanée, précipitée, sans réfléchir, et tu te mets à t'énerver, à râler constamment, à maudire celui-ci et celui-là, des réactions qui sont instinctives, et bien là, tu n'as pas utilisé ton da'at. Alors que si tu réfléchis, tu fais, n'est-ce pas, un bilan, ce qui s'appelle un pesegzman. Tu marques un temps mort pour réfléchir, tu dis, voilà, la situation, elle est ce qu'elle est. Il faut d'abord se retirer de la situation. Comme, n'est-ce pas, si tu t'élèves sur un hélicoptère, en train d'examiner ce qui se passe en bas, ce qui se passe autour de toi. Comme si tu n'es pas concerné de la situation donnée. Parce que lorsqu'on est dans le décor, dans le cadre, c'est très difficile de réfléchir de façon objective. Voilà, il faut prendre du recul, comme si tu es, n'est-ce pas, à l'écart de tel spectacle. Et ensuite, tu te mets à analyser la situation. Tu te dis, voilà, la situation, elle est telle qu'elle est, et je ne peux pas revenir en arrière. Revenir en arrière, eh bien, des fois, n'est-ce pas, non seulement c'est insensé, mais des fois, ça peut empirer la situation. Des fois, il y a des gens qui se mettent constamment à ruminer le passé, et à dire, si j'avais fait ci, si j'avais dit ça, eh bien, c'est dommage, ça, j'ai raté, c'est manqué, ça ne rime à rien. On s'enfonce encore plus, parce qu'on s'accuse encore plus. Alors, bien souvent, on est coupable, bien souvent, on n'est pas coupable.
En général, on n'est jamais coupable.
Non, il ne faut pas dire ça. Non, on n'est coupable.
Jamais je m'accuserai. En général, jamais je m'accuserai, je suis coupable.
Il y a des gens qui s'accusent, et au contraire, ils s'enfoncent encore plus, parce que, voilà, ils se rendent coupables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Bon, l'homme chané, aucune importance. Qu'on soit coupable ou pas, ce qui est important à présent, c'est de diriger, d'orienter notre décision, notre regard vers l'avenir. La situation, elle est ce qu'elle est. Alors, je suis coupable à 100%, ou alors à 0%, ou à 50%, peu importe. Bien souvent, n'est-ce pas, c'est la main d'Hachem qui nous dirige, bien souvent, pas toujours. C'est la main d'Hachem qui nous dirige, des fois, on fait même des erreurs alors qu'on a été dirigé. Bon, mais les mains, c'est aucune importance. Ce qui est important maintenant, c'est de voir comment résoudre la situation, comment l'améliorer. Alors, il faut analyser toutes les données de la situation. Et à partir de cela, prends une décision, quelle est la meilleure façon à présent d'améliorer la situation dans laquelle je me trouve. De sortir de ce pétrin et d'améliorer les conditions. Alors, entre parenthèses, c'est que, mis à part l'effort qu'on doit faire pour en effet sortir de telle situation, eh bien, il y a aussi, n'est-ce pas, aussi un élément qui est important à ne pas oublier, c'est que, lorsqu'on va sortir de telle situation, eh bien, en effet, on pourra faire un bilan pour pouvoir dorénavant éviter de se mettre dans la même situation. C'est-à-dire, il faut, n'est-ce pas, exploiter l'échec transformer l'échec en réussite. Puisque, n'est-ce pas, j'ai fait une erreur et je me trouve dans tel problème, comment dorénavant éviter de refaire la même erreur, concrètement? Des fois, n'est-ce pas, bien souvent, alors des gens sont habitués à s'énerver tous les soirs quand ils rentrent à la maison parce que leurs femmes ou leurs enfants n'ont pas fait cela, ont fait cela, n'ont pas dit cela, ont dit cela, etc., etc. Parce que votre travail, c'est pareil. Et c'est un processus qui se répète presque tous les jours, au moins une fois par semaine. Alors là, c'est ridicule, c'est absurde, c'est dommage. Parce que la situation, elle est telle qu'elle. Changer pas les personnes, surtout n'est-ce pas changer son épouse ou son mari, c'est voué à l'échec, pas à 100% des cas. Il faut être très subtil, très délicat pour savoir comment s'y prendre, n'est-ce pas? Et en général, ça ne vaut pas la peine de vouloir le faire. Même pour les enfants, il faut savoir s'y prendre, comment les éduquer de prime abord. Mais lorsque l'erreur a été commise, bien souvent, ce n'est pas le moment de leur faire le reproche et surtout pas de piquer une crise. Parce que là, tu ne vas rien résoudre. Ça ne fait qu'empirer la situation. C'est démontrer que lorsque tu t'énerves contre quelqu'un, eh bien, il ne t'entend pas. Il ne t'entend pas pourquoi? Parce qu'il est uniquement affairé à se protéger contre ta colère. On a un exemple flagrant de cela. On a lu dans la paracha, il y a à peine deux semaines, paracha de Baalotra. Lorsque Moshe Rabbeinu a été critiqué par Aaron et Myriam. Alors Hachem voulait leur faire le reproche. Avant de punir Myriam de la lèpre, Hachem leur a dit, « Vayomer Shimuna Devaray. » Vayomer, on sait que Vayomer Amira Zelashon Raka, c'est un langage qui est doux. Vaydaber, c'est un langage qui est plutôt dur. Vayomer, c'est Amira Raka, un langage avec douceur. Shimuna, c'est quoi na? Na, c'est s'il te plaît, s'il vous plaît. Enna ela Lashon Bakasha. Alors les commentateurs disent, c'est que lorsque Hachem, il vient faire le reproche à Aaron et Myriam, eh bien, il leur parle d'une façon qui est douce et leur dit, s'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire. Pourquoi, dit le commentateur, parce que si Hachem leur avait dit ce reproche avec une certaine colère, il n'aurait pas accepté le reproche d'Hachem. C'est inimaginable. Qui c'est qui parle? C'est Hachem qui parle. À qui Hachem parle? Il parle à des grands prophètes. L'âme Israël a eu 48 prophètes et 7 prophétesses. Aaron était un des 48, Myriam était une des 7 prophétesses. Et c'est quoi un avis, c'est quoi un prophète? Dit le Rambam. Le Rambam, il énumère toutes les qualités des prophètes. Une des qualités, dit le Rambam, c'est quelqu'un qui maîtrise toujours son Yetzirah, son instinct, et jamais son Yetzirah le maîtrise. Imaginez quel niveau c'est un prophète. Même pour des prophètes de telle envergure, eh bien quand Hachem vient faire le reproche, il doit parler avec une parole, une façon qui est douce, en leur demandant, n'est-ce pas, s'il vous plaît, écoutez ce que je veux dire. Parce que si c'était énervé, il n'aurait pas pu accepter le reproche. Donc pour te dire, il n'y a pas une personne au monde que lorsque tu lui feras le reproche avec colère, qui va l'accepter. C'est impossible. C'est contre la nature humaine. Qui est fait dans la colère, ça ne marche pas. Des fois ça marche, pourquoi? Pourquoi ça marche? Parce que la personne qu'on a réprimandée par la colère, eh bien, il a peur de subir encore une fois la crise de nerfs de tel proche parent, de tel voisin, de tel camarade. Alors, il va changer son attitude pour éviter de subir encore la colère. Mais il n'a pas été éduqué, il n'a pas été transformé. On disait que, donc, lorsque une situation donnée nous a dérangés, perturbés, on est dérangé par ce qui s'est passé, eh bien, si on se met, par exemple, à s'énerver tous les jours, alors on ne va rien remédier. Et pourquoi? Parce que, aussi, la personne s'habitue à t'énerver à ta colère. Alors bon, on s'habitue, et ouais, il est casse-pied, il m'embête, etc. Alors on le fait, on ne le fait pas, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas, mais tu n'as pas remédié la situation. Alors pour résoudre le problème, qu'est-ce qu'il faut? On a dit, il faut prendre du recul, se mettre à l'écart, essayer d'analyser les éléments de la situation donnée pour réfléchir, pour prendre une décision, comment réagir dorénavant. Alors, il est vrai qu'il est possible qu'on peut arriver à la conclusion, il faudra réagir avec une certaine autorité. il faudra faire un reproche, il faudra punir, il faudra gronder, c'est vrai. Mais il y a une différence lorsque cette punition, lorsque cette réaction, elle a été faite de façon spontanée, sans programmation. Alors, en général, c'est voué à l'échec. Alors que si elle était programmée, alors tu pourras peser le pour et le contre pour te dire, voilà comment lui dire la chose, comment ne pas lui dire. Quand lui dire, à côté de qui lui dire. Le décor est très important. Tout ce qui va accompagner eh bien, le reproche, la réprimande, est très important pour que tu puisses, n'est-ce pas, réussir à véhiculer, faire passer le message que tu veux faire passer. Et tout cela dépend du da'at. C'est-à-dire que le da'at, bah, c'est lui qui va nous aider à peser le pour et le contre pour décider, programmer comment agir, comment réagir. Alors ce da'at, n'est-ce pas, c'est lui qui relie le ciel et la terre. C'est lui bah, qui crée le lien entre le corps et l'âme. L'harmonie entre le corps et l'âme. Parce qu'en effet, lorsque je réagis de façon spontanée, en m'énervant, en piquant une crise, eh bien, c'est une réaction qui dépend du corps, et comme on a dit aussi, de la partie la plus basse de l'âme, qui est appelée Nefesh, Nefesh Abahamit. Alors que lorsque je transmets la décision, non pas à mon corps, à mon âme qui est basse, mais plutôt aux parties les plus élevées de mon âme, qui sont Ruach et Neshama. Et en effet, n'est-ce pas, le Da'at, il se trouve, n'est-ce pas, au niveau de Ruach et Neshama. Là, n'est-ce pas, les données sont différentes. Là, je réagis différemment. Alors, des fois, je sens que je commence à m'énerver. Donc, je sens, n'est-ce pas, que ce qui s'appelle les parties de mon Nefesh Bamit, de mon âme bestiale, commencent à réagir. Alors, je le calme. Je dis, attention, il ne faut pas s'énerver. Ce n'est pas la peine de piquer une crise, parce que d'abord, ça ne va mener à rien. Deuxièmement, pour moi aussi, c'est mauvais. S'énerver, tu t'habitues à t'énerver, et ensuite, ça devient une habitude, un vice, et on peut plus s'en passer. Quelqu'un qui s'est énervé pendant 20 ans, 30 ans, c'est plus difficile de s'améliorer. C'est presque écrit que le tikkun amidot, les amidot, il faut les réparer dans le jeu quand on est jeune. Plus on s'enfonce, n'est-ce pas, dans le vice, dans le défaut, plus c'est difficile à arranger, à réparer. Alors ça, n'est-ce pas, c'est une réflexion qu'il faut prendre avant de s'énerver. Mais cependant, le da'at aussi, la raison me dicte aussi, ok, pas s'énerver, mais ce n'est pas pour ça que je vais rester passif et indifférent par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'en effet, ne pas réagir, ça peut aussi créer un problème. Parce que si je dis rien, si je fais rien, eh bien, demain après-demain, ils feront toujours la même bêtise, la même erreur. Alors, je dois réagir. Mais comment réagir? Quand réagir? Dans quelles conditions? Quelles normes? Quelles dimensions? S'il faut gronder ou punir? Il y a aussi, n'est-ce pas, la gravité de ce qui a été réalisé. On peut punir avec une certaine sévérité ou alors de façon plus légère, plus douce. Là aussi, il faut réfléchir à tout cela. Alors, le but à atteindre, eh bien, c'est ne pas se laisser aller aux instincts, pas à la colère, à ce qui te prend tout d'un coup, mais il faut prendre du recul, réfléchir, méditer, programmer ta réaction. Et ça, c'est le da'at qui fait tout ça. C'est ton da'at qui va relier ta neshama et ton corps.
Quelle est la manière de faire une réflexion à quelqu'un avec un sourire, par exemple? Un conseil.
Alors, en effet, c'est comme tu viens de définir, c'est que tu peux lui faire la réflexion en souriant. Alors là aussi, il faudra réfléchir, parce que peut-être qu'il faut lui faire la réflexion en souriant, peut-être que non. Peut-être qu'il faut la faire réflexion en étant très sérieux. Alors, des gens, tu le fais avec le sourire, il va accepter. L'autre, n'est-ce pas, il prendra à la légère. L'autre, il va être vexé, etc. Là aussi, ça dépend de qui tu as affaire, avec qui tu as affaire. Est-ce que c'est une erreur qu'il commet depuis quelques jours ou depuis quelques années? Il y a une différence entre tout cela. Mais il n'y a pas de règle générale à donner. C'est pourquoi une fois un grand éducateur avait dit que dans l'éducation des enfants, il n'y a pas de règle noir-blanc. Évidemment, il y a des règles à suivre, c'est vrai. Mais les règles sont toujours plus ou moins à moduler. Parce que ça dépend de l'enfant. Est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Parce que ça dépend, est-ce qu'il l'a fait une fois ou alors est-ce qu'il le fait tous les jours? Ça dépend, comme dit Golvina, est-ce que c'est quelque chose qu'il est sujet à refaire le lendemain ou alors tu es sûr et certain que ça lui est arrivé, mais jamais il le refera? Dit Golvina, si c'est une erreur que tu es sûr et certain qu'elle ne va plus se réaliser encore une fois, ce n'est pas la peine de punir. La punition, elle doit être portée, orientée vers l'avenir pour éviter que l'enfant fasse encore une fois la même erreur. Pour le passé, la punition n'a aucun sens.
Si on le punit, au contraire, ça va faire l'effet inverse.
Des fois, ça fait l'effet inverse. Des fois, une paille se braque, il se révolte.
Est-ce que c'est le même conseil pour l'époux et la...
Alors là aussi, tu vois, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire aussi même conseil. Tout d'abord, c'est sûr que c'est différent. Parce que c'est sûr que le rapport entre époux n'est pas comme le rapport entre parents et enfants, dans tous les domaines. Donc, maintenant, alors bon, c'est... C'est-à-dire que là c'est encore plus délicat.
Je m'excuse, j'ai posé une question.
Il faudrait une question peut-être pas dans la place.
Il faudrait des commentaires là-dessus. Hein, parce que les conseils en général.
Mais Ezrat Hashem, vous allez tous vous marier bientôt.
Les conseils qui sont donnés en général. Les conseils qui sont donnés en général, c'est qu'entre époux, il faut éviter, dans 99% des cas, de faire des reproches, de faire des remarques. Pourquoi ? Parce que. En général, c'est voué à l'échec. Parce que même si on est prêt à accepter un reproche, eh bien, de son époux, c'est plus difficile. Bon, dans certains cas, eh bien, en effet, on peut faire le reproche. Mais il faut savoir comment le faire, quand le faire, de quelle façon le faire. En effet, des fois, on peut le faire le reproche, il faut le faire, mais ça dépend dans quelles conditions.
Si il y a un décalage dans le niveau de religion entre la femme et l'homme, comment un homme doit-il faire dans la tour?
Là aussi, quand on le fait en tant que reproche, ça ne marche pas. Parce que tu l'accuses. Il faut le faire de façon détournée. Sans reproche, mais de façon de s'intéresser à la religion mitzvot. Alors le mieux que ça se fasse par une tierce personne. Mettons directement, on peut le faire, mais de façon très détournée, très délicate.